partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue sur IDFM, votre radio, la radio qui nous rassemble, pour votre émission Les Passages, entendez-le comme vous le voulez, votre rendez-vous mensuel santé et sérénité. Nous traitons tous les premiers samedis de chaque mois, à midi, de sujets inspirants qui se proposent de nous éclairer sur notre conscience à être à soi et au monde. Je m'appelle Céline Dupuis. En tant que thérapeute par le yoga et énergéticienne par le soin de la trame, je suis très intéressée par toutes les approches thérapeutiques de mes collègues. Aujourd'hui, je reçois Grégory Valny. Il exerce en tant que coach en neurosciences et praticien en hypnose à Saint-Brice-sous-Forêt dans le Val-d'Oise et partout en France avec les nouvelles technologies. Grégory va nous parler de ce fameux triangle dramatique ou triangle de Cartman, qui est une figure d'analyse transactionnelle proposée par Stephen Cartman en 1968, qui met en évidence un scénario relationnel typique entre victimes, persécuteurs et sauveurs. Grégory Valny va nous expliquer quelles sont les peurs et les croyances limitantes qui nous amènent à entrer dans ce triangle infernal et surtout comment l'on peut en sortir en prenant notre responsabilité, en recouvrant notre souveraineté d'être. Comment être lucide sur l'histoire que l'on se raconte? Quelles sont les conséquences de cette manipulation mentale inconsciente? Bonjour Grégory Valny.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va très très bien.
T'es heureux d'être là?
Très.
Eh ben moi je suis vraiment très très heureuse, vraiment ravie que tu aies accepté mon invitation. Merci infiniment. Alors tu connais un petit peu cette émission et tu sais que ma première question est toujours quel est ce passage que tu as vécu? Comment es-tu devenu coach en neurosciences, praticien en hypnose et pourquoi?
Alors en fait il m'est arrivé il y a quelques années un drame, comme beaucoup. En fait j'ai perdu mon meilleur ami d'une façon assez... Pour pas dire quelque chose de mauvais, rocambolesque, on va dire, quelque chose d'inattendu, qui a fait que du jour au lendemain, j'ai perdu mon meilleur ami. Et dans ce cas, bah, il faut redistribuer les cartes. J'ai eu une philosophie de vie jusque-là qui m'a permis de prendre mes responsabilités pour justement sortir d'une situation qui pouvait m'être mauvaise, je dirais. Et de ce fait, bah, j'ai décidé de suivre une carrière qui me nourrit, suivre une carrière qui m'épanouit, et j'ai trouvé avec les neurosciences la réponse à tous mes maux.
Et du coup, tu t'es formé?
Ouais, je me suis formé à l'Institut des neurosciences appliquées. L'intérêt de le faire dans un domaine appliqué, c'est que je ne voulais pas théoriser, je voulais pas apprendre des théories pour juste apprendre des théories, mais c'était pour aider les autres à aller mieux.
Et aujourd'hui, justement, tu souhaites développer surtout ce thème de la posture de victime, qui est une porte d'entrée dans ce triangle dont je parlais, ce triangle infernal pour soi et pour l'entourage. Et comment, justement, tu as pu, toi, voir que parfois, on se prend les pieds dans le tapis, j'ai envie de dire?
En fait, une victime, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'avoir soit un problème, soit une personne qui lui pose des problèmes pour pouvoir garder son statut de victime.
Alors bien sûr, on dit tout de suite qu'on ne parle pas de victimes qui sont réellement.
Tout à fait. On va sortir de ce cadre de traumatisme évident lié à des situations qui sont intolérables.
Oui, d'une extrême violence, voilà.
Tout à fait. On peut se rendre compte que parfois dans la vie, dans deux cas de figure qui sont identiques, il y en a un qui va prendre une posture de victime, à savoir qui va le dire, bah, c'est jamais de ma faute.
C'est toujours la faute des autres.
C'est toujours la faute des autres. Et puis il y en a un qui va dire, bah, effectivement, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette erreur?
Tout à fait. Et c'est vrai que même on peut aller plus loin, évidemment, au niveau philosophique, en se disant que même dans un drame ultra terrible, et puis d'une violence extrême, même là, on peut transmuter. Et comme toi, tu as pu le faire dans le drame que tu as traversé.
On peut transmuter seul, c'est difficile.
Oui, tout à fait.
J'avoue que j'ai eu de la chance. J'ai de la chance d'avoir ce tempérament depuis tout petit qui fait que j'ai compris que je pouvais trouver des solutions quand il y a des soucis. Mais ça s'apprend. Et c'est ça qui est génial.
Oui, il y a en effet des façons d'apprendre à transmuter tous les malheurs, tous les drames.
Exactement.
De nos vies.
On peut gagner du temps sur des deuils, on peut gagner du temps sur pas mal de choses aujourd'hui qui, avec les connaissances en neurosciences qui nous viennent de toutes les études et de toutes les recherches qui ont été faites dans ce domaine, on sait aujourd'hui qu'on peut solutionner des problématiques beaucoup plus vite qu'avant aussi.
Oui, c'est ça, c'est des thérapies beaucoup plus courtes qu'avant.
Tout à fait.
Parce qu'on sait maintenant comment le cerveau fonctionne.
Exactement.
Ça, c'est magnifique. Alors, est-ce que tu peux nous dire justement quelles sont les causes qui entraînent une personne à se raconter l'histoire de la victime?
Bah, c'est souvent le problème d'une mentalité qui est de se sentir impuissant face à des événements. Parfois, on a l'impression que tout nous tombe dessus, qu'on en a plein le dos. Il y a plein d'expressions qui nous viennent de ces situations dans lesquelles on a l'impression que les choses, elles nous viennent de l'extérieur. Et les mauvaises choses, elles nous viennent de l'extérieur. À partir du moment où on ne va pas plus loin que ça, bah on a aussi l'entourage qui est capable de nous dire bah « Toi, de toute façon, tu n'as pas de chance. »
Ah oui, en plus, ça en rajoute une petite couche. Ça vient valider.
« Toi, tu es nul. »
On ne sait pas ce qu'on fera de toi.
Toi, tu n'y arriveras jamais. Mm. Donc, voilà.
En fait, c'est un système de défense qui se crée finalement dans l'enfance et qui est généré, enfin, qui est constitué de toute peur.
En fait, dans l'enfance, on entend des choses qu'on valide forcément puisqu'on a nos référents.
Et oui.
Que sont nos parents ou les instituteurs ou tous les adultes en tout cas qui nous entourent. On a nos référents qui ont la parole sacrée et qui sont crus justement quand on nous parle. Et un enfant qui entend bah tu es nul, bah lui ça va être beaucoup plus facile pour lui de défendre cette posture.
Parce qu'il ne peut pas faire descendre son parent du piédestal par exemple ou son éducateur.
Exactement.
Sinon bah tout s'effondre. Donc comme il est fondé sur la confiance en son parent, voilà. Il va valider en effet que c'est vrai et il va créer tout un monde autour de lui pour valider ce mensonge.
Exactement. Et donc par la suite, il va se comporter comme cet enfant qui, bah, pour se faire accepter, dans cette identité de je suis pas bien ou je suis nul ou je ne suis pas digne d'être aimé, je ne suis pas digne d'être en sécurité. Voilà. Il va se créer des croyances, des limites.
Ce qui va lui permettre de survivre.
Bah voilà. Parce qu'on est programmé pour vivre et pour survivre. Et notre cerveau, aujourd'hui, on sait qu'il a besoin de se raccrocher à quelque chose qu'il connaît. Et pour faciliter la vie, bah, se raccrocher à quelque chose qu'on connaît quand on connaît que des drames, eh ben, il va faire en sorte qu'on voit encore plus de drames, puisqu'on sait, en l'occurrence, vivre ces choses-là, et on est vivant à la fin. Donc, pour le cerveau, il s'inquiète pas.
Oui, et puis on parlait tout à l'heure de ce fameux triangle. En fait, c'est aussi des personnes qui vont se positionner en sauveur parce qu'ils ont besoin d'être vus, ils ont besoin d'être reconnus, ils ont besoin en fait de toujours nourrir en fait ce système de défense en permanence. C'est une aliénation permanente.
Pour être aimé, sauvé pour être aimé.
Voilà.
Dans le triangle de Cartman, de toute façon, il n'y a aucun des pôles du triangle qui est le bon de toute façon, puisqu'un sauveur il va avoir besoin de quelqu'un à sauver, un bourreau il va avoir besoin d'une victime ou un persécuteur il va avoir besoin d'une victime pour se nourrir et une victime elle va avoir besoin d'un sauveur ou d'un persécuteur pour rester dans ce triangle,
dans cette posture qui finalement est une posture qu'il croit être celle qui lui permet de survivre au manque d'amour. Et c'est vrai que on fait pas du tout de différence finalement entre sauveur, victime et bourreau, parce qu'en fait c'est le même personnage. Celui qui est sauveur est aussi le bourreau, parce qu'il va lui falloir à un moment donné dire ah bah oui mais attends, mais c'est bien la faute de l'autre, comme tu disais tout à l'heure.
Et il deviendra même la victime, puisque quand ça va s'arrêter, quand il y en a un qui va changer de posture. Parce que ça tourne. Hein.
Ça tourne tout le temps, mais c'est toujours la même chose.
Ça tourne tout le temps, donc il va se retrouver à la place de victime, et puis il va se comporter comme une victime aussi. Et dans certaines situations de sa vie, il va se comporter comme une victime également. parce que ça rejaillit. Là, on parle de mentalité transactionnelle dans un triangle, mais il s'avère que ça se note après dans la vie de tous les jours, quelles que soient les relations qu'on va développer, on sera toujours dans ce modèle-là, parce qu'on n'en connaît pas d'autres.
Oui, c'est ça. Et en tant qu'adulte, c'est un enfer. C'est infernal, en fait. Tu peux nous expliquer justement quelles sont les conséquences quand on tourne dans ce triangle?
Les conséquences, c'est la procrastination, par exemple.
Et on est comme tétanisé, en fait.
On est tétanisé. On a peur de choses qui ne sont pas réalistes. Moi, je veux bien avoir peur des serpents.
Pourquoi pas, oui.
Ouais, j'habite à Saint-Brice, sous forêt.
À quoi ça sert?
Pour le coup, j'ai très peu de chances de rencontrer des serpents. Et quand bien même, si j'en ai peur, je vais développer des comportements qui feront que si j'en croise un, je serai pas en pleine possession de mes moyens pour me défendre si je dois le faire. Et donc, les conséquences de ce postulat, c'est d'attirer aussi les persécuteurs.
Bien sûr, puisque en fait on vit ce que l'on vibre. Et c'est vrai que les neurosciences nous disent que 97%, enfin peut-être, je dis un chiffre qui est peut-être le faux, c'est peut-être 92 ou 93, bref. En tout cas, c'est un nombre infini de nos peurs ne sont pas fondées sur des menaces concrètes.
Tout à fait. C'est plus de 90% en tout cas. Il y a 92% exactement. Et il s'avère que même dans les 8% restants, on n'est pas convaincu que ce soit réaliste. C'est-à-dire qu'il va y avoir 3% à peu près de faits réels. J'ai peur d'un accident de voiture. Là, pour le coup, ça peut être plus réaliste.
Il y a un bus qui passe, je me méfie quand même.
Exactement. Voilà. Mais c'est que 3%, et par rapport à tout ce qu'on est capable de se monter dans notre cerveau, justement, et dans notre tête, dans certaines situations, notamment de peur, puisqu'une victime, elle va avoir peur de beaucoup de choses. Peur de la nouveauté.
Peur d'avoir même un travail.
Peur de travailler, peur de prendre les transports, parce qu'il se passe des choses dans les transports.
Ouais.
Et tout ce qu'on entend aujourd'hui dans certains médias et dans la vie actuelle, pour une victime, elle va se conforter réellement dans cette posture.
Oui, parce qu'il y a des avantages secondaires, en fait, à avoir cette posture.
Quelqu'un qui va avoir une maladie et qui se rend compte qu'elle est reconnue par cette maladie, elle fait partie d'un groupe. Dans ce groupe, pour peu qu'elle soit celle qui vit les choses les plus difficiles, elle va avoir des soutiens qui vont venir de toutes parts, par tous ces sauveurs qui sont dans ces groupes-là. Donc, pour le coup, cette identité de victime, elle va être rassurante. Elle va être, ça va nous entourer d'une façon.
Ça devient même une meilleure amie.
On a l'impression que c'est un costume, quoi.
Oui, c'est ça. Ça devient même une compagne, cette maladie.
Exactement.
On peut voir, nous, en tant que thérapeute, qu'on peut recevoir même des personnes qui, en effet, cherchent à nouveau un sauveur en la personne du thérapeute, qui, évidemment, ne peut pas être trouvé, puisque nous, en fait, notre travail, c'est d'amener la personne à être en responsabilité de sa vie, recouvrer sa souveraineté d'être. Et finalement, ça peut capoter parce que la personne tient trop à son statut de victime.
En fait, Pour casser cela, justement, la première chose dont je parle, moi, quand je commence une thérapie, c'est de prévoir la date de la fin de cette thérapie. Et donc, on se fixe une date à laquelle on arrêtera cette relation thérapeutique.
Ah, c'est extrêmement intéressant, ça.
Et donc, ça a un sens... c'est très efficace dès le départ, puisque ça permet...
C'est comme un contrat.
C'est un contrat. Ça permet... très rapidement, en tout cas, à la personne de se positionner, dans une posture de responsable, puisque là, pour le coup, je sais qu'à cette date-là, je pourrais plus avoir les conseils. Donc là, il faut que je me mette dedans, et ça va être intensif, mais il faut que je me mette dedans. Et à partir du moment où on commence à penser justement comme la personne qui a les clés,
oui,
il nous arrive d'autres choses. Et bon, on pourra le développer par la suite, mais c'est quelque chose de vital.
Ben, je trouve ça extrêmement intéressant. Puis tu sais quoi, je vais te piquer l'idée. Vraiment.
Ben, je te la donne volontiers.
Merci. Merci. Et on va faire une première pause si tu veux bien, Grégory. Tu as choisi It's Probably Me. Désolée pour mon anglais. Je recommence. It's Probably Me. Ah là, ça va mieux. De Sting. Pourquoi ?
En fait, dans cette chanson, on parle de responsabilité. Donc c'est une chanson, c'est probablement moi qui ai fait en sorte qu'il m'arrive ces choses-là. Et quand on s'en rend compte, bah déjà ça fait une belle chanson, mais en plus bah on va pouvoir évoluer dans la solution plutôt que dans le problème.
Et voilà, et après l'écoute de Sting, tu nous diras justement comment en sortir. Merci, It's Probably Me, Sting.
Stars look down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, and no one will you see. Ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It was hard for us both. That I feel and show, some would say, I should let you go your way, you only make me cry. Well, if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, but it's probably me.
Nous venons d'entendre It's Probably Me de Sting. Vous êtes sur IDFM, la radio de toutes les générations. Vous écoutez votre émission Les Passages, entendez-le comme vous le voulez. Je m'appelle Céline Dupuis et je suis en compagnie de Grégory Valny qui exerce en tant que coach en neurosciences et praticien en hypnose dans le Val d'Oise à Saint-Brice-sous-Forêt mais aussi partout en France grâce aux nouvelles technologies. Nous pouvons nous retrouver tous partout en France. Alors Grégory, nous parlions justement de ce fameux triangle de Cartman et notamment de cette posture de victime et tu nous disais que tu allais nous donner les outils pour sortir de ce triangle et sortir notamment de cette posture de victime.
Alors en fait ce que les neurosciences mais pas seulement toutes les recherches ont prouvé, c'est que une victime, elle va toujours avoir son contraire. Le blanc, il va avoir le noir. Le mauvais, il va avoir le bon. Le grand, il va avoir le petit. Et donc, le contraire de la victime, c'est le responsable.
Et oui, parce qu'on vit dans un monde duel, donc forcément, on fait toujours deux expériences possibles.
Exactement. On a tous été victimes à un moment donné.
Ah, oh bah oui.
On s'est tous bien positionnés sûr dans ce rôle-là qui nous était rassurant. Mais en tout cas, à partir du moment où on comprend, la posture de responsabilité, c'est de penser qu'il existe une façon d'influencer sa vie.
Quel souffle d'un coup, tu vois ? Rien que tu le dis et ça respire, ça sent la liberté.
Exactement, on peut influencer notre vie, on peut influencer notre environnement, on peut se rajouter des capacités.
C'est faire un pas de côté finalement.
Exact. Changer de point de vue.
Tout est question de point de vue.
Exactement. Et quand on parlait de simplicité, se poser la question, est-ce que je réagis comme une victime ou est-ce que je réagis comme un responsable dans cette situation ? Ne serait-ce que cette petite question, ben elle nous permet souvent de prendre la bonne décision.
Et pour ça, c'est vrai que ça demande de, un, baisser les armes et du coup d'amener de la conscience. Alors moi, en tant que professeur de yoga, j'aime dire de la lucidité lumineuse.
Ça me va. C'est de la conscience, du discernement. C'est accepter de changer déjà.
Oui, donc dire oui dans un premier temps.
Dire oui. Je crois qu'il y a quelque chose. Dire oui, je pense qu'il y a quelque chose de mieux.
Voilà. Donc j'accepte la situation pour pouvoir voir au-delà.
Exactement.
Et ça demande beaucoup d'humilité.
D'humilité, de résilience.
De résilience.
Aujourd'hui, avoir une posture résiliente, c'est pas se dire qu'il m'arrivera rien dans ma vie. C'est de me dire comment faire pour être le mieux armé possible pour vivre ces moments-là qui seront un peu plus difficiles. Et quand on parlait de dualité, il y a des moments difficiles, mais il y a des bonheurs aussi. Et pour pouvoir les mesurer de la bonne façon, l'un et l'autre, c'est important d'avoir les meilleures armes possibles pour les voir et pour se rendre compte que parfois la vie elle est difficile et parfois la vie elle est facile et parfois elle nous fait des cadeaux.
Oui, et puis tu vois, du coup ça m'amène évidemment à parler de cette posture du pardon qui n'est pas pour moi un pardon psychologique, parce que ça n'a rien à voir en fait avec ça. Si on part du postulat que c'est un pardon psychologique, alors ça ne vaut absolument rien. Que dalle. Par contre, si on monte à un niveau de conscience plus spirituel, j'ai envie de dire.
Oui, bien sûr.
Voilà, posons les mots. Alors, c'est une posture qui va nous amener à l'état de gratitude.
En fait, au niveau de... Je parlerai de quantique.
Oui.
À partir du moment où on parle de loi d'attraction, on attire ce qu'on vibre. Et de façon authentique... à partir du moment où on commence à mettre en place cette gratitude, ne serait-ce que de se réveiller le matin,
oui,
de se dire bah il pleut, bah c'est génial pour le sud de la France ou pour l'Espagne parce qu'ils ont besoin d'eau, et pour nous aussi en l'occurrence. Mais c'est une façon de se dire que la vie est belle. Et puis il y a le professeur Coué qui est devenu très célèbre, mais c'était avant tout un professeur, et la méthode Coué là pour le coup c'est très réducteur par rapport à tout ce qu'il a pu faire dans sa carrière. Et ne serait-ce que de se dire tous les matins que quoi qu'il arrive et je vais passer une bonne journée et je vais de mieux en mieux, à partir du moment où on se dit ces mots-là, bah on a la chance.
Quelque chose peut se passer.
Voilà, devant soi, on va pouvoir voir des choses qu'on n'aurait pas vues si on se dit, il pleut. Je vais rester sous ma couette et je vais regarder Netflix.
Et de toute façon, la vie, c'est pas facile. Et patati, et patata. Alors, moi, il y a deux livres dont j'ai envie de parler, si tu veux bien.
Avec plaisir.
Qui m'ont bouleversé, enfin, dans le sens où ça changer ma vie, non, et pas que cela, hein, mais cela par rapport au thème qu'on voit aujourd'hui. Je sais pas si tu connais Byron Katie. Non? Bah écoute, c'est vraiment très intéressant, et elle a fait donc elle appelle ça The Work, justement. Okay. Le travail. Et c'est un vrai travail, tu vois, tu te poses des questions. Est-ce vrai? Est-ce absolument vrai? Est-ce que c'est vraiment, vraiment vrai? Tu vois, tu te la poses une fois la question, deux fois, trois fois, et puis tu la retournes pour te dire, en fait, elle parle de moi. Mmh. Cette situation parle de moi, ça ne parle que de moi, puisque je ne peux voir que ce que je crois. Exactement. Ça aussi, hein, tu sais, quand j'étais petite, on me disait, c'était quoi la phrase? Je ne crois que ce que je vois. Mmh. Ben non, tu ne peux voir que ce que tu crois. Évidemment. Et d'ailleurs, en yoga, on le dit, le mental fait l'erreur. C'est une de ses activités parce qu'il ne peut... Il filtre en fonction de ses croyances, en fonction de tout ce qu'il a... de tout ce qu'il a créé. Il y a une autre personne qui m'inspire énormément aussi, c'est Frank Lobvay. Tu connais pas non plus? Ah, pareil, tu vas l'aimer, tu vas l'adorer. Ton autre vie. Il parle justement de ce pas de côté. Et c'est très, très, très intéressant.
Et dans le domaine des livres, il y en a un qui est très accessible qui s'appelle Les Accords Toltec.
Oh bah oui.
Qui est lisible par tout le monde pour le coup. Dès le départ, on se rend compte dans ce livre et c'est expliqué d'une façon, mais magnifique, qu'on a tous une vision de notre vie qui nous est propre. C'est-à-dire que si on se positionne, ne serait-ce que comme notre maman, notre amie, et on regarde son film à elle, son regard sur nous en l'occurrence, et comment elle nous imagine, il y a personne qui nous pense comme on est. Il y a personne qui nous voit comme on est. À partir du moment où on comprend ça, bah ça veut dire que nous-mêmes, on a développé plusieurs identités.
Oui, c'est vrai, je trouve ton image magnifique. C'est-à-dire, si on va au cinéma, et que par exemple on regarde le film de notre vie à partir de nous, bon ok, là du coup ça colle. Si on regarde le même film de notre vie, mais vu par notre frère, ah c'est marrant, ah ouais lui il a vu ça. Pourtant c'est toujours le film de ma vie, vu par ma mère, et c'est encore une autre histoire, et etc., etc.
Et c'est les conseils à un moment donné, tu devrais faire comme ça.
Ouais.
Et on se rend compte que suivre ces conseils, parfois, ça peut être quelque chose de bon. Mais il y a un âge, il y a un moment où on se dit non, j'ai plus envie d'entendre ces conseils. Parce que je me rends compte que ces conseils-là, ils sont par rapport à ta vie à toi, par rapport à ta vision à toi, par rapport à ton expérience à toi. Moi, j'avais pas de thérapeute dans ma vie, autour de moi, dans mon entourage. Il y a un moment donné où je leur ai dit arrêtez de m'envoyer vos craintes. Oui, il y en a qui réussissent et il y en a qui réussissent pas. Moi, je veux être de ceux qui réussissent. Donc,
j'ai plus envie de valider vos peurs.
Je vais pas valider vos peurs.
Mais ça demande d'être infidèle à son parent. C'est vrai que c'est pas facile.
Oui, alors on va, c'est une négociation qui va faire qu'à un moment donné, on va l'éduquer lui aussi.
Oui. Et en même temps, on change personne, on sauve personne.
Puisqu'un parent, il va avoir besoin qu'on soit épanoui et qu'on soit bien dans notre vie et qu'on ait confiance en nous. Si on lui montre que le chemin, c'était celui-là, ça peut prendre un petit peu de temps, mais ça garantit pour lui aussi quelque chose de très positif.
Oui, une possibilité, en effet, pour notre parent de faire un pas de côté. C'est un contrat d'élévation mutuelle, finalement. Exactement. Une relation parent-enfant ou parent-éducateur, enfin.
Et pour ça, il faut se rendre compte qu'on n'est pas obligé de prendre les bagages de tout le monde.
De tout le monde, oui.
Nos propres bagages sont suffisamment lourds parfois à porter. Par contre, on n'est pas obligé de les porter toujours avec soi. C'est une belle image aussi. L'expression justement dont on parlait tout à l'heure de « j'en ai plein le dos », c'est qu'à un moment donné, ces bagages, il faut les poser.
Mais on parle là des parents, mais ça peut être aussi dans des groupes d'amis, dans n'importe quel groupe en effet.
Dans les relations sociales.
Dans les relations sociales, chacun nous parle de ses peurs, chacun parle que de lui-même en fait.
Bah, tu parlais tout à l'heure de nos propres croyances. Mmh. Nos croyances, elles vont tout simplement créer notre réalité. Mmh. À partir du moment où on n'a pas la même réalité, on le sait, maintenant on le sait. Tous les deux, on n'a pas la même réalité dans cette pièce.
Et oui, on a chacun notre monde.
Exactement, la façon dont on le voit, la façon dont on le vit, la façon dont on amène notre expérience, la façon dont on va amener certaines peurs, certains comportements qui peuvent être soit bons, soit mauvais. Est-ce qu'on va être... À chaque fois, on va avoir des situations qui vont, pour chacun, être constituées de dizaines et des dizaines de choix. Donc, il y a tellement peu de possibilités de rentrer dans le cadre de l'autre. Parfois, on a l'impression.
C'est pour ça qu'un des premiers accords de Toltec, c'est ne pas préjuger.
Ne pas préjuger. Prendre le dans ce premier accord, justement, prendre conscience que notre parole est d'or.
Et d'ailleurs, moi j'ai envie de dire, on peut déceler une posture de victime chez l'autre parce que comme sa parole est d'or, on peut voir tout de suite, par exemple, une personne qui vient argumenter, par exemple, une absence ou j'ai pas fait ci ou j'ai pas fait ça. Parce que il m'est arrivé tel problème. Ok, vraiment. Elle s'est pris les pieds dans le tapis. Tout de suite. Ou l'autre jour, une personne de mon entourage me dit, bienvenue dans le vrai monde. Et je lui ai répondu, le monde de qui?
J'appelle ça le comportement de bécasse.
En fait. Ok, d'accord.
En fait, c'est d'une certaine façon pour casser ce comportement-là aussi.
Oui, t'as bien raison.
C'est que, à un moment donné,
Il faut le faire tomber de son piédestal, ce comportement.
Je refuse de donner de l'importance à des postures de défense.
Exactement. Bravo.
Ça n'est qu'une posture de défense. Maintenant, dis-moi la vérité.
Voilà. C'est comme je lui ai dit, le monde de qui est là?
Exactement.
Il n'y a pas de réponse. Le vrai. Non, allons plus loin. Bon, ça a pas pu aller plus loin et
ça peut pas aller aussi vite.
Et je suis pas là à ce moment-là en posture de thérapeute, donc j'arrête immédiatement l'échange et puis c'est tout. Mais en effet, de toute façon, un système de défense n'amène aucune relation. On peut pas être en relation avec un système de défense.
En fait, un système de défense, en plus, il va nous faire penser qu'on peut avoir n'importe quel comportement. Il sera validé parce que c'est pour nous défendre.
Ouais, exactement. Donc c'est juste. Toutes les guerres commencent par des gens qui se défendent.
Hein. Exactement.
On va faire une pause, Greg, parce que c'est magnifique, cet échange est magnifique. Alors tu sais quoi, quand tu m'as envoyé tes musiques, je l'ai mise à fond dans la maison et je me suis dit, oh, c'est bon. Alors pour moi, c'est mon premier philosophe, c'est mon premier professeur de philosophie, c'est Jean-Jacques Goldman.
Et si je peux t'en parler quelques minutes,
avec joie.
Quelques secondes, c'est la personne que j'écoute depuis l'âge de 4-5 ans. Et à 4-5 ans, je comprenais déjà ce qu'il me disait.
Oui. Je
pense que ce que je fais aujourd'hui, pour il y a une grande part des paroles de ces chansons.
Mais tu sais, moi, quand j'avais envie, j'avais entendu à coups de livres, je franchirais tous ces murs. Eh ben, je me suis dit, ouais, il a raison. Et du coup, j'ai beaucoup étudié grâce à lui, en fait.
Et moi, dans cette chanson-là, j'accepterai la douleur.
Oui.
J'accepterai tout, finalement, pour être vivant, quoi.
Pour être sûr de pas vivre dans l'indifférence.
Exactement.
Pas l'indifférence de Jean-Jacques Goldman.
Je connais les conséquences, mais tant pis pour les pleurs. J'accepte quoi qu'il en coûte, tout le pire du meilleur. Je prends les larmes et les doutes, et risque tous les malheurs. Tout n'est pas l'indifférence, tout n'est pas le temps qui meurt, et les jours qui se ressemblent. Sans saveur et sans douleur. J'apprendrai le froid des phrases, j'apprendrai le chaud des mots. Je jure de n'être plus sage, je promets d'être sourd. Tout m'est pas l'indifférence, tout m'est pas le temps qui meurt, et les jours qui se ressemblent, sans saveur et sans douleur. Château des palais pour un cadeau, un morceau d'aventure contre tous les confins, des tas de certitudes pour désirer encore, et changerai à l'évente pour un peu de vie, chercherai clé de porte pour toute folie, je prends tous les tickets pour tous les voyages, aller n'importe où et changer de paysage. Comme on pleure, tout n'est pas l'indifférence, tout n'est pas le temps qui meurt, et les jours qui se ressemblent, ça me ressemble.
Nous venons d'entendre « Pas l'indifférence » de Jean-Jacques Goldman. Vous êtes sur IDFM, la radio de toutes les générations. Et vous écoutez votre émission « Les Passages ». entendez-le comme vous le voulez. Je m'appelle Céline Dupuis et je suis en compagnie de Grégory Valny, qui exerce en tant que coach en neurosciences et praticien en hypnose. Alors nous parlons aujourd'hui de la posture de victime, comment en sortir, et là nous sommes sur le thème des avantages de se posturer finalement en tant qu'être responsable de sa vie, de recouvrer la souveraineté de son être. Alors, quels sont les avantages, s'il te plaît, Greg ?
Alors, les avantages, il va y en avoir 5 que j'ai listés. C'est qu'on va d'abord être plus heureux. C'est-à-dire que à partir du moment où on peut se rendre compte que la vie, elle peut être belle, quand on fait ces choix-là, eh ben, on commence à toucher du doigt le bonheur, le beau, les bonnes choses. On va pouvoir surmonter des obstacles.
Plutôt, et il y en a. Et il y en a.
Plutôt que de les mettre sous un tapis.
Mais oui.
On va essayer de trouver des solutions pour faire en sorte que cet obstacle devienne peut-être une opportunité. On va pouvoir aussi vivre pleinement sa vie. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on a besoin nous-mêmes de donner du sens à ce qu'on fait. Et quand on subit toujours, le sens, c'est, je peux pas me donner le sens de subir les choses. Quand on est acteur, pour le coup, on vit pleinement.
Acteur de sa vie, acteur de sa santé.
Exactement. Acteur de tout ça. On va avoir la possibilité de réaliser n'importe quel objectif aussi.
Oui, de prendre des décisions importantes, du coup.
À partir du moment où on peut prendre des décisions importantes pour soi, mais qui vont nous donner à long terme la possibilité, effectivement, de réaliser n'importe quel objectif. C'est-à-dire que si demain je veux faire tel métier, celui dont je rêve depuis tout petit, on est dans une époque où des formations, il y en a des dizaines et des dizaines. On est dans une époque où des gens qui sont là pour nous aider, il y en a des dizaines et des dizaines.
Époque et un pays, parce que on peut profiter par exemple de points formation, des choses comme ça.
Exactement, on a les solutions aujourd'hui pour aller chercher les bonnes informations qui nous permettront. Il faut se faire un plan, en tout cas un plan pour pouvoir avancer, il faut que ce soit réaliste. Mais j'ai l'impression que le réalisme, il s'est décalé. Des choses qui étaient très difficiles il y a 40 ans, aujourd'hui elles sont beaucoup plus faciles. Notamment quand on veut faire une reconversion. Aujourd'hui je suis pleinement ce que je suis dans mon métier. Avant ça, j'étais directeur régional d'une grande marque de bijouterie.
Rien à voir.
Rien. Mais est-ce que j'avais l'impression que c'était ma vie, que ça allait être ça et que j'étais doué pour ça. Mais je suis mille fois plus heureux à faire ce que je fais, de faire ce que je fais aujourd'hui, parce que j'ai fait ce choix à un moment donné.
Qui t'a demandé du courage? Alors moi j'aime beaucoup, vous le savez, Grégory Mutombo. Grégory d'ailleurs, il paraît que ça veut dire vigilance. Et Grégory Mutombo dit, ça demande du courage, littéralement cœur en action, c'est-à-dire d'ouvrir son cœur, donc en effet de ne pas marcher à l'allure de son mental, de descendre en dessous du mental pour ouvrir le cœur.
Descendre pour ouvrir son cœur, mais pour ça il ne faut pas vivre le rêve de quelqu'un d'autre, il faut vivre le sien. Et donc se rendre compte que aujourd'hui on peut atteindre n'importe quel objectif, c'est aussi réaliser tous ses rêves.
Tout à fait. Ça, tu vois, c'est important qu'on l'entende, parce que moi comme toi, on a tous, comme tu le disais tout à l'heure, on s'est pris les pieds dans le tapis. Et moi, la solution, à un moment donné, je l'ai trouvée en me disant, à chaque instant, baisse les armes, pour amener de la lumière, et en me disant tout le temps, ça parle de toi. Ça ne parle que de toi. Alors, tu nous proposes un troisième titre, Greg, qui s'appelle Flowers de Miley Cyrus. Est-ce que tu peux nous expliquer cette chanson pour ceux en plus qui ne parlent pas anglais?
Alors, cette chanson, elle a été écrite après une rupture. Et Miley Cyrus, dans cette chanson, elle explique à son ex, mais à elle aussi, finalement, elle se passe le message qu'elle est capable de s'acheter des fleurs, qu'elle est capable de s'aimer bien plus qu'il ne l'a aimé, qu'elle est capable d'aller danser toute seule, qu'elle est capable.
Oui, on la voit faire son yoga aussi dans le clip.
Aussi. En fait, elle se rend compte qu'elle peut être heureuse seule.
Bien sûr.
Et je sais que c'est le préalable à une très belle rencontre pour elle plus tard, beaucoup plus équilibrée et une relation amoureuse qu'elle ouvre justement grâce à cette chanson. Elle s'ouvre la possibilité aussi de vivre une belle histoire par la suite.
Oui, c'est vrai que quand on est déjà amoureux de soi et puis qu'on est en bonne compagnie avec soi-même, on peut être une bonne compagnie pour les autres.
Exactement.
Quand on n'est pas fondé sur des mensonges qu'on se raconte. Flowers, Miley Cyrus.
We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. No remorse, no regret. I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, babe. I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Started to cry, but then remembered
d'entendre Flowers de Miley Cyrus. Vous êtes sur IDFM, la radio de toutes les générations. Vous écoutez votre émission Les Passages, entendez-le comme vous le voulez. Je m'appelle Céline Dupuis et je suis aujourd'hui en compagnie de Grégory Valny qui exerce en tant que coach en neurosciences à Saint-Brice-sous-Forêt, hein, juste à côté des studios. Et puis il y a aussi donc il peut vous consulter partout en France parce que évidemment grâce à Internet nous pouvons tous nous rejoindre. Alors Grégory, j'ai très envie de te demander, alors c'est magnifique de recouvrer notre souveraineté d'être, mais néanmoins tu me disais qu'il y a des inconvénients à court terme en fait.
Alors,
à cette posture.
Il y en a exactement comme dans toute situation. L'excès peut faire en général le trop n'est pas le bon en tout cas. Donc il s'avère que la mentalité de responsabilité peut faire à un moment donné qu'il peut être difficile de prendre des décisions dans des situations qui vont engager beaucoup de conséquences.
Ah oui, d'un coup, on n'ose plus.
Bah, si je fais ça, il va se passer ça. Si je fais ça, il va se passer ça. Et j'ai que ça comme solution.
Et puis en plus, on peut se sentir coupable du coup, puisqu'on sait que tout vient de nous.
Bah justement, on peut se sentir coupable.
Se prendre les pieds dans le tapis, dans la culpabilité.
On peut être frustré de pas prendre la bonne décision, de pas s'autoriser à prendre la bonne décision. Donc ça peut créer ces situations. Et puis aussi, il faut avoir du courage. On en parlait tout à l'heure pour prendre la responsabilité de la conséquence de nos actes. Et de tous nos actes. Parce qu'on n'est jamais toujours bon, on n'est jamais toujours beau, on n'est jamais toujours... Et donc, il faut être conscient, à un moment donné, qu'on est cette lumière, oui, mais on est aussi cette part d'ombre.
Et qu'on a fait de notre mieux.
Et quoi qu'il arrive, on a fait de notre mieux.
Avec courage et bienveillance, comme disait Cendrillon. Oh là là, mes références philosophiques, bonjour.
Je ne pensais pas qu'on allait parler de Cendrillon, mais... Mais en conclusion, en tout cas, quoi qu'il arrive, cette mentalité, elle peut radicalement changer sa vie.
Magnifique. C'est un magnifique mot de la fin, Grégory. Je vais laisser le temps à nos auditeurs et à nos auditrices d'aller chercher un papier, un crayon, pour pouvoir noter tes coordonnées. Hein. Je peux toutes les donner?
Oui.
Ok. Alors, notez bien... pour le site internet de Grégory Valny, donc www.greg valny coach. Tout ça est attaché. gregvalnycoach.com. Le mail contact@greg-lifecoach.com. FR, life, L-I-F-E, coach, coach.fr. Vous retrouvez Greg aussi sur les réseaux sociaux, sous le titre Love-toi, pardon. Évidemment, c'est le jeu de mots. Et évidemment, je me suis pris les pieds en tapis. Love-toi et marche. Sois la meilleure version de toi-même. Le numéro de téléphone de Greg, 06 11 42 72 20. Là, je le répète, 06 11 42 72 20. Merci beaucoup, Grégory Valny, pour ces partages.
Merci beaucoup, Céline.
Non, merci infiniment. Merci aussi infiniment à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, pour avoir suivi cet échange et surtout pour votre fidélité. Merci à notre technicien. Aujourd'hui, et comme toujours, hein, depuis bien des mois, c'est Francky qui est aux manettes. Merci infiniment. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Aussi, vous pouvez retrouver tous les podcasts de cette émission, les passages. Entendez-le comme vous le voulez sur le site idfm98.fr. Pour nous contacter, l'adresse mail est contact@idfmradio.fr. Le numéro de téléphone est 01 34 12 12 22. Je vous invite à rester à l'écoute de notre antenne sur la bande FM 98.0 FM et maintenant en qualité numérique avec le DAB+. D'ailleurs, dès demain, dimanche, à midi, vous pouvez écouter une autre émission Forme, Santé et Bien-être. Quant à moi, je vous retrouve le samedi 1er juillet à midi et j'espère que mon invité, en tout cas nous sommes en discussion actuellement, sera une coiffeuse. Nous parlerons de coupe de cheveux énergétique. C'est intriguant, n'est-ce pas? Alors, je vous dis à bientôt les amis et je m'offre un petit cadeau. En fait, j'ai appris que Céline Dion était très malade, ça fait quelque temps. Et moi, je me vois souvent mettre Céline Dion dans la maison à fond quand ça va pas, notamment. Généralement, c'est quand ça va pas. Et puis, je danse et je tourbillonne et je pleure. Ça me fait pleurer. Et là, j'ai envie de vous proposer I'm Alive de Céline Dion. Alors, à bientôt les amis sur IDFM, la radio qui nous rassemble.